Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors dans cet épisode, on va parler de pas mal de petits sujets, régime cétogène, des bretzels, des PFAS et de la pression sociale liée au surpoids. Donc ce week-end également, je vous ai proposé, pour ceux qui sont restés connectés, j'ai proposé une vidéo sur prendre des pecs et de la force au développé couché. Donc c'est un cours spécialement fait pour ceux qui veulent améliorer leur développé couché, mais pas simplement leur niveau de force ou leur technique. C'est d'essayer de comprendre comment rendre le développé couché efficace. Parce que c'est vrai que c'est un des mouvements phares, un des mouvements les plus populaires, pas seulement parce que c'est le plus connu, mais c'est surtout parce que c'est souvent celui qui est le plus facile à faire dès qu'on s'entraîne un petit peu en home gym ou dans une salle pas super bien équipée. Alors aujourd'hui, je sais, il y a des tas de machines, des poulies, tout ça. Mais il y en a beaucoup qui aiment le développé couché, donc qui ont envie d'en faire et donc qui ont envie d'en profiter à fond et de comprendre comment faire pour solliciter au mieux leur pec sur ce genre de mouvement. Voilà, donc on en a parlé longuement ce week-end. Je vous invite à aller voir le lien qu'il y a dans les notes du podcast si ça vous intéresse. Bon, le premier sujet du jour, du podcast, c'est ce fameux régime cétogène pour les troubles mentaux graves. Donc, pour rappel, le régime cétogène, beaucoup de lipides, moyennement des protéines et quasiment aucun glucide. Donc c'est un protocole alimentaire qui a été, on va dire, popularisé pour ceux qui résistaient au traitement, pour les enfants, qui résistaient au traitement pour l'épilepsie. Donc, je crois que c'est début du... Je sais pas si c'est fin 19e, début 20e, enfin quelque chose comme ça. Donc, l'étude a suivi 21 adultes souffrant de schizophrénie ou de troubles bipolaires, tous sous médication et présentant des troubles métaboliques. Donc, souvent, les troubles métaboliques, on les associe, c'est ça va être quoi? L'obésité, l'hypertension, une glycémie un peu déraisonnable. Enfin, bon, voilà, tous les troubles métaboliques qu'on pourrait retrouver aujourd'hui. Après 4 mois de régime cétogène, les résultats sont éloquents. Aucun des participants n'a conservé son syndrome métabolique. Donc, déjà, ça a amélioré la santé de l'individu. En moyenne, les participants ont perdu 10% de leur poids corporel. Donc, 10%, vous allez me dire, c'est beaucoup. Ouais, mais c'était des gens en surpoids. Enfin, souvent des gens en surpoids. Donc, forcément, ça aide. Plus vous êtes en surpoids, plus vous avez du poids à perdre, plus la perte se fait rapidement quand vous engagez un régime. Ils ont vu leur tour de taille réduire de 11%. Et ont présenté une baisse de la pression artérielle, des triglycérides, du sucre dans le sang et de la résistance à l'insuline. Donc tout ce qu'il faut, en fait. Hein. Sur le plan psychiatrique, l'amélioration est également notable, avec une réduction de 31% des symptômes selon l'échelle des impressions cliniques globales. Les participants ont rapporté un meilleur sommeil, une humeur améliorée et une meilleure qualité de vie. Ce régime qui propose un carburant alternatif pour le cerveau, donc en gros les cétones, hein, corps cétonique, montre qu'une approche diététique peut être un complément puissant au traitement standard, offrant une nouvelle voie pour le contrôle de ces maladies. Donc, enfin, on aurait presque l'impression que c'est de la publicité mensongère pour un produit à la con en téléachat, quoi. Alors que non, c'est juste une approche alimentaire où on fait l'éviction, en tout cas, d'une bonne partie d'un des 3 macronutriments. Je prends pas l'alcool dans les nutriments, hein. Il y a quand même une certaine forme d'efficacité parce qu'on travaille à la fois sur la perte. Alors, évidemment, il y a des tas de biais là-dedans. Puisqu'est-ce que c'est le fait de faire ce type de régime qui a amélioré ensuite l'humeur et tout? Est-ce que c'est le fait que la personne a perdu du poids? Donc forcément, vous aurez ceux qui veulent être les plus pointus, vous diront qu'il y a des biais et tout, mais peu importe. Le but est que c'est un package qui fait que les individus perdent du poids et améliorent leur syndrome métabolique. Et tout ça, bah alors de toute façon, quand on a une glycémie qui est pas stable, déjà les humeurs elles sont pas stables. Donc ça déjà c'est une des premières choses. Quand je vois quelqu'un qui a une réduction de sa résistance à l'insuline, donc forcément une augmentation de sa sensibilité, son taux de sucre dans le sang qui baisse, etc., et une pression artérielle qui baisse aussi, forcément cette personne-là dans la journée, elle va être beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisée et avoir des humeurs plutôt, je vais pas dire au beau fixe, mais en tout cas une bonne régulation. Comment on appelle ça? Oui, c'est ça, d'avoir une humeur stable, quoi. Donc, que ce soit le régime, là, c'est lui qui c'est lui le déclencheur de la perte de poids. C'est la perte de poids qui crée ça, mais le régime aide aussi, hein. Après, il faut pas oublier que, on n'est pas habitué, et c'est pour ça que, l'ouvrage que j'avais fait sur la perte de poids, et qui est toujours disponible, hein, sur le site, si ça vous intéresse, hein, vous allez sur la page de garde, vous verrez, il y a trois programmes. Un pour la sèche, hein, la perte de graisse. C'est pour ça qu'il marche aussi bien et qu'il a aussi bien plu, parce que c'est quelque chose qui fonctionne, en fait. Après, chacun est libre d'utiliser la méthode qui veut, mais c'est quelque chose, au moins, ça marche. Voilà, on le fait, ça marche. Et croyez-moi, c'est pas tous les régimes qui, quand on les fait, ils se mettent à fonctionner. Il y en a beaucoup qui caressent trop les gens dans le sens du poil, et finalement, ça marche pas, quoi. Mais pour les plus curieux, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Bon. Et si on était un peu moins focus sur les protocoles qui fonctionnent et ceux qui sont un peu pourris, d'ailleurs, ça écrèmerait beaucoup, en fait, les sites internet, même les plateaux de télévision, tous ces trucs-là, parce que on prend tellement les gens pour des enfants, qu'on a peur qu'ils se blessent, ou je sais pas ce qu'il y a, mais on les infantilise tellement, c'est un truc de fou, hein, si vous observez un petit peu, toutes ces précautions d'usage et tout, on a l'impression que même les émissions à visée adulte, alors moi je regarde pas la télé, mais les peu de reportages nutrition et tout que j'ai pu regarder, il y a une telle précaution dans le discours. Soit les ceux qui créent les trucs se disent bon ben de toute façon les gens sont vraiment stupides et sont des abrutis, ce qui est quand moi par exemple je regarde ou vous regardez, vous vous sentez un peu insulté, ou alors il y a un truc, ils ont l'impression que le public ça va être des ados qui ont pas de cerveau, enfin, et encore même les ados ils ont bien plus de discernement que beaucoup, ils savent très bien que les régimes, les trucs extrêmes, les piqûres d'ozambique ou je sais pas quoi là, c'est hyper dangereux, ils le savent que c'est dangereux. Ils sont pas abrutis au point de savoir que ça ne l'est pas. C'est juste que ils se disent ouais, mais derrière je vais être peut-être le dieu vivant de la cour de récré, quoi. En gros, je schématise à mort, mais c'est un petit peu ça, quoi. Donc souvent les risques sont connus. C'est comme dans le bodybuilding. Hein. Souvent les risques sont connus, sauf que l'attrait du truc est plus important, quoi. Bon, les bretzels, grands ou petits, un choix plus important qu'il n'y paraît. Alors, les bretzels, ce sont les bretzels, vous savez, au début, je pensais que c'était les gros bretzels alsaciens, enfin, je ne sais pas si c'est alsacien, oui, je crois que c'est ça, ou allemand, etc. Vous savez, les gros machins, là, moelleux et tout. Non, non, là, les petits, comme vous avez dans votre... que vous servez à l'apéro, là. Vous savez, les... Alors, je ne sais pas, ça se fait encore. Mais moi, c'est le genre de truc que je vais acheter pour l'apéro quand on reçoit des gens. Vous savez, ces boîtes rondes là, ça fait un peu, c'est à l'ancienne, quoi, avec les tiges et les espèces de bah, les bretzels, quoi. Bon, c'est pas top, hein, c'est du sel et du blé, je crois, mais bon, en règle générale, bizarrement, les gens aiment bien, donc c'est un peu, pas besoin de trop de se prendre la tête, les gens aiment bien ça, quoi. Après, j'ai plein de petites, d'ailleurs, la dernière fois en vous parlant, j'aime bien faire des digressions. Au dernier moment là, on s'est vu avec des amis il y a quelques jours, et parce qu'on voulait faire une surprise à Donana, et du coup c'est nous qui recevions, donc j'ai dû improviser un truc un peu rapidement, et c'est vrai que j'ai fait une petite recette de, je me suis dit tiens, est-ce que je peux pas fabriquer des gâteaux apéro, il me restait de la farine ancienne avec un peu de thym, de l'huile d'olive et tout. Ben, j'ai réussi à fabriquer une espèce de plaque que j'ai prédécoupée, donc comme une pâte très très fine, hein, que j'ai prédécoupée juste avant. J'ai fait cuire, percer, cuit un peu comme des petits tucs, là, vous savez les tucs, là, un peu de sel par-dessus, du thym, et la pâte, au lieu que ça soit avec du beurre, c'était avec de l'huile d'olive. Et en fait, ça fait des super gâteaux apéro, il n'y en avait plus un seul. Donc parfois, franchement, on peut se faire des trucs rapidos. On sait ce qu'il y a dedans. On peut sélectionner la farine qu'on utilise. Donc, si vous êtes sans gluten, ben vous pouvez prendre une vieille farine sans gluten, enfin pas forcément vieille d'ailleurs, mais une farine de sarrasin ou autre. Alors faites attention, prenez pas des farines de riz blanche qui auront un index glycémique à vous envoyer sur la lune. Mais bon, voilà, petit aparté quoi. Donc je reviens à cette étude des bretzels. L'étude a analysé le comportement alimentaire de 75 adultes qui ont mangé des bretzels de différentes tailles. Donc en gros, ils voulaient savoir si on allait plus en manger quand ils étaient gros, moyens ou petits. Et je vais vous lire hein, la réponse malgré... Alors, les participants ont consommé plus de bretzels lorsqu'ils étaient grands par rapport aux petits et moyens, respectivement. Alors, moi, ça m'étonne pas, puisque nous avons tendance à aller à la fin de quelque chose. Par exemple, si demain je vous donne 3 cookies de taille différente, un petit, un gros, un moyen, en règle générale, vous allez le finir. Sauf que vous êtes bien conscient que à la fin du gâteau, vous n'aurez pas mangé la même chose en fonction de la taille. Donc si votre objectif c'était de vous dire j'en mange 2 et puis j'arrête, ça sera la même chose qu'il soit petit, grand, moyen dans votre tête. Donc forcément, c'est un meilleur choix de choisir les petites portions que les grosses. Au début, j'ai un peu eu du mal à comprendre le raisonnement de cette étude parce qu'ils expliquent pas vraiment, ils donnent un point de vue. Après, comme moi, je suis en train de faire là, mais ils ont juste fait une observation et ils sont pas vraiment capables d'expliquer pourquoi les gens en bouffent plus quand c'est des gros que quand c'est des, enfin, plus de calories quand ce sont des gros bretzels que des petits. Moi, je m'observe moi. Quand je commence quelque chose, je le finis. Et si je me fixe, tiens, j'en mange que 2 ou 3 et je m'arrête, eh ben, j'aurai le même comportement, quelle que soit la taille du truc. Donc, évidemment, si le truc, il est vraiment monstrueux, je m'arrêterai au bout de 1. Par exemple, un éclair au chocolat, si on m'achète un éclair au chocolat pour le dessert, des amis qui viennent, il y a ça, je vais en manger, en règle générale, j'en prends que la moitié. Et je prends la moitié d'autre chose. Parce que je suis casse-couille. Mais sinon, je m'arrête à une portion. Pour le cas des bretzels, ça m'étonne pas trop en fait. Par contre, il y a quelque chose qu'ils ont remarqué, c'est que les petits bretzels, les gens en mangeaient pas plus, mais par contre la surface de contact avec le petit bretzel était comment dire, il y a quasiment le même nombre de sel sur les petits que sur les moyens et les grands. Il y a plus de surface de contact sur les petits que sur les grands avec le sel. Donc les gens en fait ils se retrouvaient à avoir ils disent cependant pour les personnes préoccupées par l'apport en sodium, les grands bretzels seraient plus adaptés, même si cela signifie manger plus de bretzels en termes de poids, donc en termes de calories, parce qu'il y a moins de sel en fait. Et la teneur en sel en bout de ligne serait moins grande chez ceux qui choisissent des grands bretzels que ceux qui prennent les petits qui sont, vous voyez, les petits souvent ils sont très salés sur la langue. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, hein, mais si vous connaissez les bretzels, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, faut faire attention aux tailles. Et si on le retrouve pour les bretzels, je pense qu'on le retrouve pour pas mal de choses. Et d'ailleurs, un bon exemple pour ça, c'est le chocolat noir. Je pense que vous avez dû voir et que les tablettes de chocolat noir, souvent, plus elles sont haut de gamme, avec des teneurs en cacao fortes et tout ça, plus les tablettes de chocolat ont tendance à être fines. Donc ce sont souvent des tablettes de chocolat qui sont 100 grammes pour la tablette, quoi. Alors que dès que vous avez un chocolat un peu moins riche en cacao, ou moins équitable, ou moins bio et tout, vous retrouverez plus souvent avec des tablettes de 200 grammes. Pourtant, vous, dans votre tête, allez, je me prends deux ou trois carrés. En fait, le carré est le, comment dire, le repère. En fait, c'est un mauvais repère puisqu'on ne calcule pas du tout au gramme. On calcule à la forme, en fait, au prédécoupage. Et ça, vous verrez que sans vous en rendre compte, vous pouvez manger plus ou moins de chocolat juste parce que c'est une histoire de carré. Et moi, j'ai une astuce pour vous, une astuce que j'ai fait moi quand je commençais à me dire, ouh, fais attention parce que, alors, quand on commence à serrer la vis pour les beaux jours et tout, on a tendance à avoir de plus en plus d'envie de petites douceurs comme ça. C'est normal puisqu'on essaye de faire un peu plus attention à sa diète. Moi, j'ai une petite astuce qui est toute bête, hein, c'est de prédécouper la tablette de chocolat. C'est-à-dire que moi je prends du chocolat à 95%. J'en ai une marque, c'est du 95%, l'autre c'était du 98, mais j'ai vu qu'il y avait du gluten dedans, donc ça m'emmerde. Donc je reviens à celle de 95%. Le 100%, j'adore ça aussi, mais en fait, dès qu'ils sont vraiment, je l'avais déjà dit, mais quand j'arrive à des teneurs trop élevées comme ça, moi ça a un effet trop dynamisant. Donc au-delà de 95%, j'ai l'impression limite que c'est du café, quoi. Et vu que moi je le consomme en fin de journée, le chocolat, c'est problématique pour l'endormissement. Donc je reviens à ma tablette, donc vous la prédécoupez, donc moi la prédécoupe. Et l'astuce, c'est de couper en deux chaque carré, puisque souvent ce sont des carrés de 10 grammes, un peu larges mais fins, et bien vous les redécoupez en deux. Et là, vu que c'est qu'une histoire de carré dans la main, vous avez l'impression, enfin de morceaux, vous avez plus l'impression d'en manger moins. Vous mangez le même nombre, mais finalement vous en avez deux fois moins. Si vous en mangiez trois, et bien là vous allez en manger 1,5. Donc si vous mangiez 30 grammes, puisque c'est à peu près ça, un carré 10 grammes, là vous allez en manger 15 grammes. Si vous en mangiez 30 grammes, trois carrés, vous allez en manger 15 grammes, 1,5 carré. Et ça, ce sont des techniques qui fonctionnent vraiment puisque c'est le geste en fait qu'on a, c'est de mettre, par exemple, si vous mangez deux carrés de chocolat, c'est de mettre deux fois un carré de chocolat dans la bouche, qui est l'habitude en fin de journée, en soirée ou peu importe le moment où vous le faites, et de continuer à avoir ce geste-là. De toute façon, sachez une chose, c'est que vous l'avez déjà fait sans vous en rendre compte. Parfois, en changeant de marque, vous êtes pas rendu compte que le poids de la tablette n'était pas le même, donc que les carrés n'étaient pas aussi lourds. Et ou plus lourd ou peu importe. Et donc voilà quoi. Donc c'est vraiment un trompe-l'œil qui marche et qui marche bien. Donc maintenant, troisième sujet, c'est l'alerte sur les PFAS dans les fruits de mer. Donc une étude révèle que les diètes riches en fruits de mer pourraient exposer davantage les consommateurs aux PFAS. Donc ce sont des substances chimiques persistantes surnommées produits chimiques éternels. Donc des saloperies en fait qui ont du mal à disparaître. Donc des polluants quoi, en gros. Hein. Donc ça a été publié dans le journal Exposure of non on and Hills avec un super accent. Cette recherche met en évidence le besoin urgent d'établir des lignes directrices plus strictes sur la quantité de fruits de mer que les gens peuvent consommer en toute sécurité pour limiter leur exposition, surtout dans des régions côtières comme la Nouvelle-Angleterre. Donc l'étude a examiné, enfin elle n'a rien examiné, elle a associé l'analyse des concentrations des PFAS dans les fruits de mer frais avec une enquête sur les habitudes alimentaires au New Hampshire, l'un des plus grands consommateurs de fruits de mer aux États-Unis, et les crevettes et les homards ont présenté des concentrations les plus élevées. Bon, on mange pas souvent du homard, mais c'est quand même très élevé, les crevettes également. Alors les crevettes, c'est selon les périodes, c'est plus ou moins bon marché, c'est dommage parce que c'est... Selon moi, ça restait quelque chose de bon, mais il y a encore ces problèmes de pollution, quoi. Hein. En fait, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. C'est chiant avec la vie moderne par rapport à ça, quoi. Avec des moyennes allant jusqu'à 3,30 nanogrammes par gramme de chair pour certains composants de ces produits chimiques là. Donc les chercheurs indiquent que les crustacés pourraient accumuler des PFAS de manière significative en raison de leur alimentation et de leur habitat sur les fonds marins. Les grandes espèces marines, en mangeant de plus petits animaux marins, peuvent également ingérer des substances chimiques. Cela souligne l'importance de comprendre comment est composée la chaîne alimentaire marine. Bon, en fait, ça revient au même que les métaux lourds, quoi. Ça revient au même que les métaux lourds. Donc, les poissons, de plus en plus, il va falloir presque les choisir d'élevage, quoi. D'élevage dans les espèces de cours d'eau artificiels et tout. Parce que vous allez me dire, oh là là, c'est pas bien, c'est pas la nature. Ouais, mais en fait, on a tellement fusillé les eaux sauvages qu'on se retrouve à avoir des poiscailles et des fruits de mer qui sont, enfin voilà, quoi, qui, bientôt on va les bouffer, ils auront trois têtes, quoi. Donc c'est quand même problématique. Et même si le en termes caloriques, en termes évidemment, en termes d'abdominaux visibles, je vous dirais, bah, le poisson c'est génial, c'est des sources de protéines maigres, enfin pas tous, hein, mais globalement un poisson blanc le soir avec un peu de légumes verts vapeur et un petit carré de chocolat, bon ben vous allez vous coucher avec ça. Franchement, en quelque temps, le vous vous sentez bien plus léger, quoi. Mais à bouffer des fruits de mer tout le temps, tout le temps, tout le temps, des calamars, des moules, des crevettes, des machins, c'est s'exposer à des problèmes aussi de santé. Il y a eu pas mal de problèmes à cause des boîtes de conserve, de sardines et tout, des gens qui se sont fait des intoxications aux métaux lourds parce qu'ils ont bouffé... Parce qu'il y avait eu le boom de la diète méditerranéenne, où les gens, en fait, la dose, ils se disent plus j'en mange mieux c'est, quoi. Et ils se mettaient à bouffer des sardines, des maquereaux, des machins, à tout va, à tout le temps, tous les jours. Bon, ça reste quand même des poissons gras, ce qui est une bonne chose hein, de manger du poisson gras. Moi, personnellement, je m'en limite à 3 prises par semaine. Voilà, 3 prises par semaine de maquereaux. Ça fait à peu près 4 et 4, 8, ouais, à peu près 12 grammes, ouais, d'oméga 3 apportés par par semaine par les poissons gras. Bon, et j'essaye de pas trop après aller sur d'autres types de poissons gras pour éviter les expositions à certains métaux lourds. Et puis les autres poissons que j'utilise, j'essaie aussi de bien sélectionner parce que sinon évidemment, ça resterait une meilleure solution pour le. Enfin voilà, pour le taux de gras, pour maintenir des calories plutôt bas, de bouffer du poisson. Hein. Mais bon, après, je tourne avec la dinde et le bœuf aussi, mais c'est si on veut suivre la diète méditerranéenne stricte, la viande est ponctuelle, le poisson est plus régulier, quoi. Et bon, le poisson d'aujourd'hui, c'est pas le meilleur poisson du monde. Donc, encore une fois, c'est là où on doit travailler avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec les matériaux malheureusement dans les états qu'on nous les a laissés, quoi, ou qu'on les a mis. Donc la pression sociale pour perdre du poids à l'adolescence, un impact qui est durable sur l'estime de soi. Donc ça, c'est une recherche menée par l'université de Bristol qui révèle que les personnes ayant subi une pression pour la perte de poids durant leur adolescence, notamment de la part de leur famille ou des médias, montrent un risque accru de stigmatisation interne, donc en gros de rumination interne, liée au poids à l'âge de 31 ans. Donc je sais que vous êtes nombreux à être dans les 30-40 là, ceux qui m'écoutent. Si aujourd'hui vous vous regardez dans le miroir, vous vous trouvez gros ou grosse, et que vous avez une stigmatisation interne de liée à ça, eh bien essayez d'explorer si vous avez subi une pression sociale pour perdre du poids durant l'adolescence, que ça soit de la part de la famille ou des médias. Donc cette stigmatisation interne comprend des stéréotypes négatifs liés à l'obésité, tels que se sentir moins attirant, moins compétent ou de moindre valeur en raison de leur poids. Alors moi personnellement, quand j'étais en surpoids dans mon adolescence, j'ai entendu comment ils appellent ça eux, c'est pas des stéréotypes. Mais j'ai entendu des déclarations des gens qui m'ont dit « Ah, mais t'as un gros lard » ou des choses comme ça. Ça, je l'ai entendu. Et je pense que si je m'en souviens aujourd'hui encore, contrairement à toutes les petites querelles que j'ai pu avoir, bagarres et tout, que j'ai même oubliées, bizarrement, ça m'est resté. Donc, si ça m'est resté, c'est que émotionnellement, c'est quelque chose qui a été mis au marqueur indélébile. C'est pas au feutre effaçable, là. Donc, forcément, ça veut dire qu'il y a eu une émotion, il y a eu une empreinte qui a été laissée par ce côté, tiens, t'es différente et t'es en surpoids, quoi. Donc, les résultats indiquent que les femmes et les personnes ne s'identifiant pas comme hétérosexuelles sont particulièrement vulnérables à cette stigmatisation. Bah moi, je suis hétéro et je suis un homme, et je peux dire que j'ai eu une forme de petite vulnérabilité. Ah oui, mais d'accord, mais aujourd'hui, par contre, je me stigmatise plus comme ça. D'accord, je comprends. De plus, les individus ayant passé une partie de leur vingtaine sans emploi, ou ayant une éducation ou sans éducation ou sans formation, ou dont les mères avaient un niveau d'éducation inférieur, sont également plus à risque. Alors pourquoi les mères uniquement? Bon, voilà, c'est les mères en tout cas. Ce phénomène n'est pas seulement lié à l'indice de masse corporelle, l'IMC, des participants, soulignant l'impact profond des influences sociales et familiales durant l'adolescence. Le harcèlement subi entre 17 et 23 ans est aussi un facteur contributif significatif. Donc entre 17 et 23 ans, si vous avez subi du harcèlement ou si vous connaissez quelqu'un qui est en train de subir du harcèlement, ça peut être une problématique plus tard pour l'estime de soi liée à l'image, le poids corporel et tout. Donc les chercheurs suggèrent que modifier de manière la manière dont le poids est discuté dans les médias et les espaces publics, ainsi que la réponse au harcèlement dans les écoles et lieux de travail, pourrait réduire la stigmatisation liée au poids et ses conséquences néfastes. Enfin, moi, je suis comment dire? Je suis très mitigé par rapport à ça, parce que je pense pas qu'on arrive un jour à faire accepter le surpoids comme quelque chose d'aussi beau à regarder par tout le monde, et par soi-même que un poids de forme. Je pense que je préfère arrêter tout de suite, moi, d'être, comment dire, naïf et d'être, j'ai pas le mot, d'être hypocrite. Je pense que ça fait très bien dans les dîners, dans les, si vous êtes filmé, si vous êtes entendu quelque part, d'avoir ce genre de discours très léché, très bien léché, très politiquement correct. Mais en vérité, les études, quand on met des, quand on anonymise les personnes testées, les personnes interrogées, elles préfèrent toutes les ceux qui sont en forme physique, qui ont des beaux traits, qui sont minces, épaules larges, enfin bon bref, qui sont plutôt sexualisés d'ailleurs. Et donc c'est, moi j'aime pas dès qu'on commence à vouloir faire tordre l'instinctif et le comment dire. Et le naturel avec un pied de biche à la moraline en fait. On peut expliquer aux gens que le surpoids, certes, on n'est pas tous égaux face au surpoids. Je suis bien placé pour le savoir, hein. Quand vous avez grandi dans un environnement où quasiment tous vos copains de quartier ont un poids de corps qui est plutôt bas, en mangeant des saloperies que vous avez, dont vous n'avez même pas accès, parce qu'il n'y en a même pas chez vous. Et pourtant, ils ont des abdos et ils sont minces, et voilà. Et d'ailleurs, eux, leur plus grand souhait, c'est d'avoir des guiboles un peu plus grosses parce qu'ils sont épais comme des tringles à rideaux. Alors que vous n'avez pas l'impression, déjà, vous n'avez pas de gâteau à la maison parce que vos parents n'en achètent pas, ou très peu, et vous n'avez pas l'impression de manger mal, et pourtant, vous êtes en léger surpoids, voire en fort surpoids après avec les années. C'est, comment dire, évidemment, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais je pense que ça, après, on l'accepte. Moi, je l'ai accepté à l'époque, et heureusement, heureusement, heureusement que je me suis, que j'ai pas attendu que le monde change et que me disent, regarde, Théo, t'es magnifique comme t'es, et confiance en toi, t'es beau. Et non, parce qu'en fait, la vie, elle était pas cool avec moi. On avait beau, il y avait beau y avoir des livres, des machins et tout qui peut dire ce genre de choses. La vraie vie, c'est quoi? C'est celle quand on se retrouve devant son propre miroir et qu'en fait, dans notre tête, on peut plus se mentir. Ou alors le moment où on veut draguer ou on veut donner une certaine bonne impression. Nos instincts nous montrent que le surpoids, on le perçoit pas d'une bonne façon. On le voit bien, la stigmatisation, là, quand on parle de grossophobie, cette grossophobie, en fait, elle est à l'intérieur, elle est génétique. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aller vers des personnes en surpoids parce qu'elles ne les trouvent pas séduisantes. Et les personnes en surpoids, moi le premier, je ne me sentais pas séduisant. Donc, c'est pour ça où je vous dis que la morale, c'est bien, Parce que ça permet de d'éviter de d'être à 100% des animaux, de violer, de voler, de tuer, etc. Mais à un moment donné, il faut quand même être honnête sur certaines choses, quoi. Et c'est vrai que moi, je pense que le discours, effectivement, du surpoids devrait beaucoup plus être axé sur la santé que sur l'apparence physique. Parce que ça donnerait du sens à vouloir perdre du poids, au-delà de juste la superficialité, pardon. Mais d'avoir beaucoup d'éducation là-dessus. D'essayer d'expliquer, bah, par exemple, quand tu manges ça, il se passe ça, quand tu manges ça, il se passe ça. Ce que beaucoup, en fait, ne savent pas. Moi, jusqu'à l'âge, on va dire, de 22-23 ans, j'avais aucune idée. Pour moi, c'était ma génétique qui faisait que j'avais plus de poids que les autres. Donc, en partie, ce qui était vrai. Mais quel que soit ce que je mangeais. En fait, puisque je vous disais tout à l'heure, moi, j'avais pas forcément des gâteaux et pourtant je grossissais. Donc, je vivais ça comme une injustice presque. Sauf qu'en poussant le curseur un peu plus loin, je me suis rendu compte que, ayant des revenus modestes, on mangeait pas mal de féculents, de trucs pas trop chers. Les féculents, pour moi, ça a été les responsables de mon obésité. Puisque j'avais un IMC au-dessus de 30. Donc, une faible obésité, mais obésité quand même. Donc, forcément, moi, ça a été les féculents pour moi. Certains, ça sera les boissons sucrées, mais souvent, c'est les féculents quand même. Hein. Observez bien, mais les gens, souvent, ils boivent pas 3-4 litres de soda. Hein. Ils ont un peu de soda, mais ils ont surtout aussi, à chaque repas, pommes de terre, ou riz, ou pain, ou une forme de blé. Voilà, c'est pour ça que mon régime marche aussi bien, parce que tous ces trucs-là, coup de balai, ça dégage. Allez, off, à la prochaine. On verra plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de sécher. Voilà, bref. Alors, prendre des pecs et de la force, j'en ai parlé au développé couché. Si ça vous intéresse, allez voir. J'espère que vous avez passé un bon épisode. On a traité 3-4 sujets et j'ai essayé d'être le plus rapide possible puisque je sais que vous allez au boulot, vous êtes en train de faire votre cardio ou autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasts d'ailleurs et je vous remercierai jamais assez parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on est ensemble. Je sais pas pourquoi d'ailleurs Apple Podcast dit un épisode toutes les 2 semaines. Un petit enfoiré, lui. J'en sors toutes les semaines et lui, il dit aux autres que c'est que toutes les 2 semaines. Et après, les gens vont se dire, celui-là, il est pas sérieux, il publie qu'une fois tous les 15 jours. Non, non, c'est toutes les semaines. Hein. Et toutes les semaines de l'année, en plus. C'est très, 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 très rare qu'il manque un podcast. Hein. Franchement, j'essaie vraiment de tenir durant l'été, durant les vacances de Noël et tout, de vous tenir à des podcasts assez réguliers. Voilà. Sinon, bon, je vous remercie aussi pour tous les avis positifs que vous m'avez laissés sur ces plateformes-là. Je les lis et ça me fait très plaisir. Franchement, vous rendez pas compte, mais ça compte parce qu'on a assez peu de retours, contrairement à ce que vous pourriez penser quand on travaille sur un écran, hein, puisque j'ai beau être sportif, machin, à passer du temps en cuisine, à écrire, tout ce que vous voulez, on reste quand même derrière un écran, donc il y a assez peu d'interactions réelles, et eh bien, c'est toujours très plaisant d'avoir que ça soit des emails ou des messages positifs. Il y en a beaucoup qui se plaignent de « Oh là là, je reçois trop de messages, je réponds pas ». Alors, moi, le premier, je réponds pas sur les réseaux sociaux, parce que c'est un choix de vie que j'ai voulu faire. Mais parce que voilà, il y en a qui insistent, mais je vis par mail ou SMS ou des choses comme ça. Alors les SMS pour la vie privée, mais je recommande d'ailleurs à beaucoup de gens de ne pas se parler par les réseaux sociaux. Parlez-vous par des messages. Les réseaux sociaux, c'est vraiment, on y passe déjà suffisamment de temps où on n'est pas compte qu'ils ont même réussi à vous faire abandonner les SMS, quoi. Alors que les SMS, c'est quand même plus agréable à recevoir qu'un messenger sur Facebook, quoi. Et puis c'est moins chronophage, absorbeur de temps, puisque quand vous allez aller sur messenger, vous allez dire ah, et tiens, lui, qu'il devient quoi, machin, blabla, et puis hop, vous êtes foutu, quoi. Une heure de gâché sur les réseaux sociaux. Bref, je m'arrête ici parce que je pourrais parler avec vous des heures. On se retrouve de l'autre côté si vous avez envie de prendre de la force et des pecs, surtout de développer vos pecs au développé couché avec mes 5 astuces directement dans les notes. Si vous avez envie de tester mon régime pour balayer votre surpoids, il y a le lien dans les notes également. Toutes les sources de ce dont j'ai parlé est linkée également. Et puis sinon, passez une bonne semaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà. Je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.